si vous le souhaitez, on peut passer. Donc, je laisse la parole, du coup, à... Je vous remercie déjà beaucoup. Et je passe la parole à Florence Frémont, qu'on connaît bien maintenant, donc le CAUE qui accompagne les communes sur la qualité architecturale et paysagère.
Tout à fait, merci. Alors, je vais intervenir effectivement sur la question des espaces publics et il va y avoir peut-être quelques redites par rapport à ce qui a été dit précédemment, mais ce n'est pas forcément très grave. Effectivement, donc aujourd'hui, vous l'avez souligné en évoquant la question du ZAN tout à l'heure, se pose la question de concilier mise en œuvre du ZAN et préservation d'espaces publics de qualité, préservation des sols pour que les espaces publics des cœurs de nos villes et de nos villages restent attractifs et agréables. Donc c'est vrai que quand on parle... Oui, je vous ai mis alors un petit visuel... extrait du CEREMA qui me semble assez intéressant. C'est vrai que la question du ZAN amène à réfléchir un peu différemment sur la question du sol, alors qu'on avait jusqu'alors une vision du sol plutôt en deux dimensions et on pensait souvent sol en pensant zone. En fait, on est dans les PLU, on parle de zonage, enfin on était plutôt sur une réflexion du sol en deux dimensions. Aujourd'hui, avec la question du ZAN, et la question du ZAN pose la question pour certains espaces de la renaturation, et donc ça amène à changer de regard sur le sol et à envisager la question du sol en trois dimensions et le sol dans son épaisseur. Et on commence à parler de plus en plus en aménagement de la question des sols vivants, c'est quelque chose d'assez récent. Et donc effectivement, cette question de l'appréhension de l'aménagement du territoire, cette nouvelle appréhension de l'aménagement du territoire, amène un vocabulaire assez spécifique. Donc on a parlé tout à l'heure de la désimperméabilisation. Donc c'est le fait de permettre effectivement à l'eau de s'infiltrer dans le sol et donc à supprimer la couche de surface qui est étanche, on va dire. On parle aussi de renaturation qui consiste plutôt à restaurer toutes les fonctionnalités écologiques des sols, à retrouver des sols vivants et à créer, on va dire, des habitats favorables pour le vivant. Vous avez sûrement entendu parler de la notion aussi de pleine terre qu'on retrouve souvent dans les PLU. Donc là, pleine terre, ça sous-entend conserver des surfaces non étanches et non bâties. C'est tout ce que ça veut dire. Et après, on parle de désartificialisation. Et effectivement, est considéré comme artificialisé, c'est ce que vous voyez dans le visuel du bas sur la diapo qui est derrière moi, à la fois des sols qui peuvent être bâtis, à la fois des sols qui peuvent être couverts d'une voirie, mais aussi les surfaces engazonnées des jardins, les stades de foot. Donc on voit qu'en fait, ça comprend tout un panel à ce jour de types de sols qui sont aujourd'hui définis dans une nomenclature qui s'appliquera à partir de 2031. Après, il y a encore un peu de flou du point de vue législatif sur cette nomenclature et tout n'est pas calé, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais il me semblait que c'était intéressant de revenir un petit peu sur ces notions. Parce qu'en fait, on n'a pas une multitude de strates végétales qui permet de créer de vrais écosystèmes et de créer en dessous, en fait, de vrais sols vivants. C'est dans ce sens-là. Effectivement, quand nous, on intervient dans les collectivités et qu'on se pose la question de l'espace public, on est souvent amené à travailler sur toute une typologie d'espaces très variés. Bien sûr, vos places de villes et de villages, qui parfois ont été très largement bitumées au fil des années, et dans lesquelles souvent, d'ailleurs, le stationnement a pris une place extrêmement importante. Et souvent, on peut être amené à se reposer la question de la place de ce stationnement qui est extrêmement envahissant et pourquoi pas le mutualiser peut-être davantage dans certains secteurs, pas forcément partout. Il y a des besoins bien réels et la voiture est importante dans vos territoires où les transports collectifs ne sont pas très développés, bien sûr. Mais souvent, il y a moyen de trouver des solutions et parfois de gagner un peu de surface sur la voiture. On a des espaces parfois dans les lotissements qu'on peut retravailler, qu'on peut requalifier, qu'on peut aménager différemment. On peut avoir tout un tas de délaissés de voirie, par exemple, qui peuvent être bitumés et non utilisés qu'on peut traiter. Je pense aussi aux ronds-points qu'on a très souvent traités comme des décorums, entre guillemets, mais qui peuvent être retraités d'une manière différente avec une vraie terre végétale. On pourrait imaginer les traiter complètement différemment. Donc on peut récupérer comme ça tout un tas d'espaces et même à proximité des équipements publics, comme sur les parvis des équipements publics, comme dans les cours d'école que je développerai un peu plus précisément tout à l'heure. Donc on voit que finalement, il y a tout un tas de typologies d'espaces, également dans les zones d'activité. On n'a pas parlé de ce sujet des zones d'activité, des zones commerciales, avec là encore de grandes surfaces de stationnement. Et puis aussi éventuellement aux abords des cours d'eau, où parfois on a des berges qui ont été elles aussi consolidées par des murets de soutènement, avec des lits de cours d'eau parfois artificialisés, voire des cours d'eau complètement recouverts. Donc c'est vrai qu'on incite de plus en plus les collectivités à réfléchir globalement sur la question de l'espace public, parce que effectivement la désimperméabilisation est un vrai sujet, la question de la place de la nature en ville est un vrai sujet, et ça nécessite de réfléchir à tout ça globalement et à l'envisager souvent avec des tranches d'intervention successives, parce qu'on sait très bien que l'intervention sur l'espace public, ça peut être quelque chose d'ambitieux et parfois d'onéreux, et les collectivités ne peuvent pas faire un gros projet en un temps limité. Je vous ai montré quelques petits exemples d'actions qu'on peut imaginer, et là c'est vrai que ça recroise un petit peu ce que vous avez évoqué juste précédemment, mais des exemples de manière dont on peut intervenir sur un espace public, par exemple par du stationnement végétalisé en changeant le revêtement de sol. Alors ça peut être un accompagnement végétal avec des places de stationnement en gravier comme à Grenade-sur-Garonne, mais ça peut être aussi un bitume qu'on décroute sur des portions. Ça peut être aussi un mélange terre-pierre qu'on vient engazonner, et selon le niveau d'intervention qu'on va avoir, effectivement, on va avoir un effet produit qui va être assez intéressant. On peut travailler sur de l'espace public avec, comme à Florence, là, sur des grandes surfaces, avec des fosses de plantation continues qui permettent vraiment de recréer une trame verte, on va dire, et un corridor écologique. Et on peut imaginer dans une ville, essayer de réfléchir à une continuité de ces espaces publics verts. On peut avoir des petits dispositifs qui permettent à l'eau de s'infiltrer à travailler sur les bordures, voire pas de bordure du tout d'ailleurs, c'est le mieux, mais on peut avoir des espaces de rétention, vous évoquiez un peu cette notion-là, qui peuvent être traités comme un espace public, c'est le cas aussi à Grenade. Des aires de jeux pour enfants qui peuvent être traitées sans revêtement de sol amortissant, mais avec une épaisseur de copeaux de bois ou de gravier qui permettent là encore à l'eau de s'infiltrer. Donc il y a plein de petites solutions comme ça, techniques, qui peuvent permettre d'aller dans une bonne direction. Après, ce que je vous évoque là, ça relève plutôt en majorité de la désimperméabilisation. Nous, au CIO, on croit beaucoup que la désimperméabilisation est déjà, entre guillemets, un premier pas vers la désartificialisation. Et que la renaturation, c'est quelque chose de très complexe. Et des projets commencent à émerger, mais on n'est pas encore vraiment complètement là-dedans dans les projets que nous, on accompagne dans les communes haut-garonnaises. Néanmoins, quand déjà on arrive à s'engager vers la désimperméabilisation, on est déjà dans un premier pas, et de toute façon, on sait bien que retrouver un vrai sol vivant, ça demande plusieurs années, voire des décennies. Donc on s'inscrit sur un temps long. Je voulais enfin terminer en vous parlant de deux projets. Un premier projet qui est la découverte du cours Rambaud à Pamiers. Alors vous êtes pas très loin, vous y avez peut-être été. C'est un très beau projet d'espace public, et ce cours était complètement couvert par une dalle béton, c'était un parking. Donc Pamiers a entrepris de retravailler complètement ce secteur avec un paysagiste concepteur, avec l'atelier Gamma. Et ce projet vient d'être livré il y a environ un an ou deux, et il a d'ailleurs été primé. Projet très intéressant, où en fait ils ont été complètement retirés la dalle béton, et ils ont remis à nu le cours d'eau en fait. Et c'est vrai que la question de la place de l'eau et du rapport à l'eau dans les villes et dans les villages, il me semble que c'est un sujet qui est vraiment essentiel. Et ce projet vraiment intéressant donc a permis la découverte de ce cours d'eau, et il est couplé avec une petite place publique qu'on voit un petit peu sur la droite sur la photo du haut, mais qui est un peu cachée sur la photo. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus ce projet, il a un effet de levier aussi sur le bâti autour. La mairie de Pamiers avait une opération façade en place qui ne décollait pas trop dans ce secteur, et depuis que le projet d'espace public a été livré, les façades se sont rénovées petit à petit. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Alors on n'est pas complètement sur de la renaturation, au sens de ma définition de tout à l'heure, mais je trouve qu'on est déjà sur une belle dynamique qui est, si on avait des espaces comme ça dans toutes les villes et les villages, je pense qu'on redonnerait beaucoup d'attractivité au centre-bourg, et ça va dans le sens quelque part de ce vers quoi nous amène Lausanne. Je pense qu'il faut pas le prendre en étant complètement trop terrifié. Et donc, deuxième projet, c'est le projet de débituminisation d'une cour d'école à Libourne. Alors, je vous le montre à Libourne, c'est pas qu'on n'en a pas en Haute-Garonne, mais on n'en a pas complètement achevé, parce qu'on en accompagne depuis quelques temps, depuis 2-3 ans. On a d'ailleurs sorti une petite plaquette sur la débitumisation des cours d'école. Je pense que vous en avez été tous destinataires dans les communes. En fait, on est parti d'une réflexion un peu globale, notamment du CAE de Paris qui avait travaillé sur les cours d'école Oasis. Et dans tous les CAE de France, on a peu ou prou à notre manière, on s'est un peu réapproprié par rapport à notre contexte territorial local cette démarche. Et on vous propose effectivement d'accompagner vos communes sur ce sujet-là. Et quand les équipes pédagogiques sont preneuses, on peut aller assez loin sur des ateliers pédagogiques pour travailler avec les enfants sur leurs besoins en termes d'aménagement de la cour d'école, couplé avec les intentions de la collectivité. Ce projet de Libourne, il est assez intéressant parce qu'il a été... C'est une jeune équipe de paysagistes concepteurs qui ont travaillé. Ces gens-là étaient installés à Libourne depuis pas très longtemps. Et la collectivité a choisi de leur faire confiance. Et ils ont été primés justement sur l'aspect concertation, en fait. Et atelier pédagogique qu'ils ont mené avec les enfants. Et nous, on se place complètement dans cette dynamique-là, en fait, de pouvoir accompagner les classes sur des séries d'ateliers de 4-5 ateliers. En général, ça se passe comme ça. Où on sensibilise les enfants à des qualités d'ambiance, à question des usages. On les aide à faire, en étant sur place, un diagnostic de leur cours de récréation. Et on essaye de voir comment se projeter vers un futur aménagement pour pouvoir construire en fait un cahier des charges et un programme qui va pouvoir ensuite être confié, si possible, à un paysagiste concepteur qui va pouvoir travailler. On peut imaginer aussi des chantiers participatifs avec les services techniques pour les former à réaliser, pourquoi pas, aussi une partie des travaux. Enfin, on a plein de pistes d'action. Et donc, à Libourne, ils ont travaillé sur cette cour qui était plutôt dans un quartier assez défavorisé de la ville. L'idée du maire, à l'époque, était d'offrir à tous les habitants des espaces verts de proximité. Justement, ils étaient dans cette perspective. Et ils ont travaillé sur une débitumisation d'à peu près 30% de la surface de la cour. Et vous voyez le avant-après et... Cette cour devient vraiment aujourd'hui le support d'activités pédagogiques et de sensibilisation à l'environnement. Et l'initiative est venue au départ pas des enseignants directement, mais plutôt des personnes qui encadrent les temps périscolaires, la LAI. Donc une belle réalisation où on passe d'une cour d'école avec un stade qui occupait une surface, enfin une aire de jeu de ballon, c'est ça que je voulais dire, qui occupait une surface très importante de la cour. En fait, des petites zones où on peut se poser, discuter. Et on est sur une cour plus calme, où on court peut-être moins. Et si on veut courir plus, on a des possibilités de sortir sur des zones un peu à l'extérieur de la cour, dans des temps encadrés où on peut courir davantage. Ça rejoint aussi d'autres réflexions qui se mènent en ce moment sur la question du genre et des cours d'école. Mais là, c'est un autre sujet, donc je vais m'arrêter là.
Je te remercie pour l'exercice de synthèse de ce sujet. Je vais laisser la place aux questions.
Non, juste, des fois, on peut être confronté à des lois ou des règles qui s'entrechoquent. Par exemple, les PMR, hein, donc voilà, c'était juste pour lancer. Des fois, le déplacement des personnes à mobilité réduite peut nous amener à avoir quelques empêchements, des fois, pour exemple, les trottoirs, ça peut être complexe, par exemple, de verdir nos trottoirs. Ben, c'était juste une petite réflexion.
Mais il vous faut garder 1m40 de largeur pour le passage des PMR.
Alors, dans nos centres-bourgs, quand on a 1m40, c'est qu'on est les rois du pétrole. Voilà.
Oui,
donc, voilà. Déjà, les 1m40, on ne les a jamais. Donc, on est déjà tous en infraction la plupart du temps. Alors, où reste la place du verdissement? Voilà, c'est ça.
C'est peut-être sur la place de la voiture qu'il faut travailler.
Oui, bonjour. Odette Ponce, je suis adjointe au maire à Longage. Donc, nous avons un collègue qui est délégué à tout ce travail d'environnement et d'amélioration d'espaces verts. Il nous talonne, hein, mais on n'a pas les moyens souvent. Et donc, on le brutalise des fois. C'est lui. Mais en fait, il y a une idée. Oui, il garde le sourire. Et il fait ce qu'il peut, mais on essaie de l'accompagner au mieux. Mais on voudrait, parce que redécouvrir une rivière, ben c'est formidable. Et nous, il a eu la belle idée de réouvrir le Rabais qui coule chez nous et qui était un petit ruisseau adorable et où on adorait dans notre enfance, mais qu'on voit plus. Donc on va le redécouvrir. Mais qui peut nous accompagner dans les moyens? Merci.
Alors, je présage pas de la possibilité de financement parce que je connais pas votre projet, mais dans l'esprit, effectivement, l'Agence de l'eau à Dour-Garonne peut tout à fait accompagner ce type de projet.
Alors, moi, j'aurais bien aimé, du coup, que tu prennes le temps peut-être d'évoquer la question du genre sur, et peut-être la qualité de l'espace public. Est-ce que ça apporte, du coup, pour les enfants, pour les travaux un peu poussés du CAUE que tu avais commencé à évoquer?
Oui, mais... alors, on s'est pas emparé complètement de cette question, nous, au CAUE, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de productions sur ces sujets ces dernières années, notamment une sociologue qui a fait intervenir le conseil départemental quand elle a réfléchi sur l'aménagement des cours des collèges, comme celui d'Autorive, par exemple, Edith Maruégeuse, qui est un peu la papesse, on va dire, dans le domaine. C'est vrai que je crois que, en fait, quand on réfléchit à l'aménagement de la cour d'école, indirectement, forcément, on réfléchit à ce sujet-là, parce qu'en fait, les deux sont imbriqués, et ça sous-entend que quand on travaille sur la cour d'école, on va peut-être être amené à faire un peu une croix ou à amoindrir les espaces de grands jeux de ballon qui sont très souvent réservés aux garçons, un petit groupe, peut-être pas toujours tous d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas tous passionnés par le jeu de ballon, mais ça relègue de côté les filles qui souvent se retrouvent quand même occupées une surface relativement restreinte tout en étant très nombreuses. Donc ça permet en fait de reposer la question de l'usage et du coup de qu'est-ce qu'on veut collectivement pour la cour. On veut se reposer, on veut avoir des espaces de tranquillité, on veut avoir des espaces où on peut jouer de manière un peu plus collective, on veut être à l'ombre, on veut se cacher dans des cabanes, enfin voilà. On veut parfois, les enseignants, envisager pourquoi pas de temps en temps de pouvoir avoir des animations, voire à des cours à l'extérieur, enfin faire classe à l'extérieur quand il fait très chaud. C'est une manière de s'adapter aussi au changement climatique finalement, à condition que ça soit ombragé. Donc voilà, du coup ça repose toutes ces questions d'usage et d'ambiance que l'on souhaite pour la cour en fait. Et forcément, il me semble que les deux sont intimement liés et que forcément, quand on parle d'aménagement de la cour d'école, on touche un peu à la question du genre de manière indirecte. C'est un incontournable, voilà.
Et d'ailleurs, pour aller plus largement et pour rejoindre un petit peu les questions de santé-environnement, il y a aussi la question des centres-bourgs. Alors, et de la place de chaque...
Oui.
Avec les seniors, oui. Les juniors, etc.
La question du genre sur l'espace public, ce n'est pas une question réservée à la cour d'école. Hein. Ça touche la globalité de l'espace public à tout niveau, en fait. On voit bien dans certains territoires la place qu'occupent les hommes sur certaines places publiques, ce qui peut créer un sentiment d'insécurité pour les femmes. Enfin, il y a eu là aussi des études sociologiques assez poussées là-dessus, avec des diagnostics qui sont faits de l'espace public par des femmes, justement, pour révéler certains secteurs dans lesquels elles peuvent avoir potentiellement un sentiment d'insécurité qui révèle un besoin d'aménagement particulier, etc. Enfin, il y a eu beaucoup de travaux ces dernières années sur ces sujets-là, et effectivement, c'est des sujets de préoccupation. Peut-être pas dans vos territoires, peut-être assez apaisés, je ne sais pas, mais voilà.
Je voulais juste témoigner d'un sujet, enfin, en rebondissant sur ce que tu... La cour d'école, en fait, c'est un bon sujet pour parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'est vrai qu'on a une société qui était rurale, qui ne l'est plus du tout, et qui est un peu schizophrène, parce qu'en fait, elle veut remettre de la nature dans les villes, mais il n'y a plus de connaissance, vraiment, de la nature, ni d'acceptation de la nature. Parce que la nature, c'est aussi avoir de l'eau, avoir froid, les feuilles tombent. Ouais. Et donc, c'était à l'occasion justement de la mise en place d'éco-oasis à Nanterre, c'était des démarches avec les services. Ce qui était intéressant, c'est sorti un peu des discussions. Il y avait par exemple un sujet tout bête, changer les textures de sol, amener des sols où ils peuvent patouiller, enfin toucher. Et du coup, c'était l'entretien. C'est-à-dire que les maîtresses ne voulaient pas avoir des enfants qui rentrent, des saletés, parce que ça... Voilà. Donc, du coup, on est tout de suite là, dans la contradiction. On veut remettre de la nature, mais finalement... il y a la question simplement d'avoir des bottes. Est-ce que ça peut pas des simplement... Chaussons. Des chaussons, des bottes, enfin, comme on faisait d'autrefois, quoi. Et du coup, ça renvoie des usages comme ça. Et puis, il y avait la question de l'entretien, qui est toujours caché. En fait, les gens interviennent quand l'école est fermée. Et que du coup, la question de la pédagogie, enfin, moi personnellement, je pense que c'est la génération des petits-enfants là, qu'il faut vraiment toucher et remettre dans une relation à la nature de compréhension et d'acceptation. Donc du coup, de partager l'entretien avec les enfants, je pense que c'est aussi un bon... Donc du coup, ça touche plein de sujets, rien que la cour d'école.
Donc, je suis ravi qu'on ait abordé la question de la réinterrogation du genre par rapport à l'aménagement des espaces publics. Alors du coup, mon intervention, c'est pas une question, mais c'est plutôt pour plus soyez un sens. En fait, c'est aussi l'occasion d'interroger la question de l'humain par rapport au reste du vivant.
Une ou deux interventions encore, et ensuite de conclure.
Juste en continuité, la problématique n'est pas celle d'aujourd'hui, hein, de l'éclairage nocturne et de la sécurité des personnes, notamment des femmes et des jeunes qui ont envie de déambuler après 19h dans le village éventuellement pour aller voir un film à la salle polyvalente. Et si effectivement on n'y voit plus rien, c'est pas très sécure. Mais bon, c'était une anecdote pour poursuivre. Quand je vois l'aménagement, là, je pense que c'est pamier, donc à titre d'exemple, je me dis que si je suis un enfant et qu'il fait chaud, j'ai envie d'y mettre les pieds. Si je suis un jeune ado et que le soir il fait bon, eh ben on va s'y retrouver, on va papoter, on va profiter de tout cet espace. Si je suis plus adulte, etc., etc. Je trouve que c'est le type d'espace qui permet beaucoup d'action, d'appropriation par des âges différents, à des horaires différents, etc. Donc je me dis que les élus qui ont pensé cet espace ont aussi imaginé quels étaient les possibles en termes d'utilisation par les populations et les interdits éventuels. Donc voilà, c'était juste une question. Est-ce qu'on peut avoir des éclairages sur ça aussi? Merci.
Je vous propose de répondre, enfin, si vous le souhaitez, en guise de conclusion pour qu'on puisse faire une rapide intervention de la Chambre qui l'avait demandé et puis passer au quiz.
Effectivement, en tout cas, vous l'avez bien noté, cet espace permet beaucoup d'appropriation. D'ailleurs, le jour où on l'a visité, le petit enfant que vous voyez au bord de l'eau, il s'est allongé sur le quai et puis il a trempé les mains dans l'eau. Il n'y a pas une profondeur d'eau très importante, une vingtaine de centimètres. Après, effectivement, tout le monde peut s'y approcher. Les parents surveillent les enfants. Enfin, il n'y a jamais eu de problème depuis que l'équipement est livré. Et c'est vrai que l'espace est très agréable et approprié par tout type de génération. Mais la question, enfin, votre intervention finalement, elle repose la question de bien poser le programme, de bien s'interroger sur quel espace public, pour quels usages, pour quel type d'appropriation. Et ça, c'est très important de se le poser bien en amont avant de passer à la phase maîtrise d'œuvre.
Je vous remercie beaucoup pour ces interventions.